continuer pour, au point de vue philosophique, voir ce premier problème qui est sûrement capital. Premier problème, Dieu crée l'âme. Chez l'enfant, sans nous dire quand. C'est la sainte ignorance. Philosophiquement, il est impossible de savoir quand, et théologiquement non plus. Si Dieu fait ça, c'est sûrement qu'il a une raison. C'est pas le hasard. Parce que c'est tellement contraire à la sagesse. Je parle contraire, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Contraire à notre sagesse. Notre sagesse pratique, c'est la prudence. Parce que la sagesse spéculative ne peut rien dire là-dessus. Il s'agit vraiment de la prudence. Et c'est cela qui est très étonnant. Le philosophe reste avec un point d'interrogation. Pourquoi ? Le théologien peut dire... C'est en raison de cette miséricorde si grande de Dieu. Il veut laisser aux parents une responsabilité qui va très loin, puisque l'éveil premier de l'intelligence du cœur est laissé aux parents. Est-ce que ce n'est pas l'œuvre la plus grande, cela, d'éveiller une intelligence humaine, d'éveiller un cœur humain? Et de le faire pour ceux qui désire vraiment respecter les voies de Dieu. Pour quelqu'un qui ne comprend pas du tout, qui voit ça naturellement, sans voir du tout qu'il y a là quelque chose d'étonnant, d'extraordinairement étonnant, vu la sagesse de Dieu. Du moins, moi, ça m'étonne. Ça m'étonne, je me dis qu'il y a là sûrement une intention très profonde de la part de Dieu pour donner aux parents une confiance. Ils ne peuvent pas créer l'âme. Bon, ça c'est l'impossibilité. L'impossibilité. Et Dieu leur permet d'agir comme s'ils étaient créateurs de l'âme. Comme s'ils étaient créateurs de l'âme, c'est-à-dire d'agir vraiment comme des causes secondes qui ont la responsabilité d'éveiller l'intelligence et l'amour dans le cœur du tout petit enfant. Et ça, les mères chrétiennes l'ont très fort, ce sentiment-là. Elles l'ont parce qu'elles sont chrétiennes. elles ne l'ont pas par la philosophie, c'est sûr. Mais le philosophe doit constater le fait. Il doit constater ce fait que les mères et les parents, surtout la mère, puisque la mère est toute proche du premier enseignement, donc il y a de la part de Dieu une audace et une miséricorde très grande. Je crois que philosophiquement, c'est une audace et une miséricorde très grande. Je dirais que ça doit nous servir de modèle, puisque tout ce que Dieu fait sert de modèle. Là, ce qu'il fait là, on n'en parle pas beaucoup. C'est même très, très enfoui. Qu'est-ce qu'il parle de ça ? Que c'est une miséricorde très grande et une audace extraordinaire de la part de Dieu. Personne ne le dit. Et mec, le philosophe devrait y penser. Le théologien, il a sa conscience de théologien, mais le philosophe, lui, il dit ça. Parce que ça implique un très grand respect vis-à-vis de l'autre pour le laisser découvrir ce qu'il y a de plus grand pour sa finalité. L'alpha et l'oméga se tiennent. Et si c'est par rapport au point de départ, sa naissance, Dieu l'a, même philosophiquement, nous donne un modèle. Je crois qu'on doit dire ça. Pour voir le respect avec lequel il a vis-à-vis de l'éveil de l'intelligence et de la volonté. Ça aurait été tellement facile pour Dieu d'imposer quelque chose qui soit vraiment imposable comme première éducation. Faire s'il n'y a pas cette première éducation, la vie s'en va. Vous voyez, la première éducation, jusque 7 ans, l'âge raisonnable, à part de 7 ans, il pourra choisir. Alors, ça doit nous donner un sens très grand du respect de Dieu vis-à-vis de la responsabilité des parents. Il les avertit. Et c'est eux qui sont responsables. C'est assez bouleversant. Parce que vous ne pouvez pas dire, ce serait trop facile, et puis c'est pas vrai. Dieu s'est trompé. Dieu a fait confiance à l'homme et à la mère beaucoup trop grande. C'est sûr que Dieu avait ça dès le point de départ en justice originelle. Dieu n'a rien changé dans son gouvernement divin à cause du péché. Alors le philosophe peut dire qu'en effet, il n'y a rien de changé. C'est naturel. Mais malgré le péché, je le dis tout ça, évidemment, je le dis d'autant plus qu'on est en même temps théologien. Mais je crois que le philosophe, comme philosophe, pourrait le dire. Le philosophe, en tant que théologien, peut le dire, que c'est bouleversant. L'homme se conduit, et la mère se conduit lamentablement avec Ève. C'est vrai, la conduite d'Ève n'est pas un modèle pour une mère de famille. Et Dieu continue de confier ses enfants aux parents, de leur confier cette première éducation qui, au point de vue du gouvernement divin, voyez, nous met quand même en face d'un problème qui est très étonnant. Je crois qu'on doit faire comprendre ça aux parents. Aujourd'hui, dans la mesure où on peut. Il y a là quelque chose de très grand. Quand on prépare au mariage, c'est une des choses philosophiques que l'homme chrétien doit voir. Ceci est vrai pour la création de l'âme, ceci reste vrai pour l'éveil de l'intelligence. L'éveil de l'intelligence, Dieu laisse à la mère, au père, mais surtout à la mère, le soin de rester dans un lien affectif très grand avec l'enfant pour pouvoir agir sur son intelligence. C'est sûr que grâce à ce lien affectif de la mère sur le petit, alors nous avons maintenant une expérience qui le montre. Je vous l'ai déjà dit ça. Quand Israël est revenu, il y a eu les kibbutz. Et les kibbutz voulaient donner à l'enfant une éducation la plus parfaite possible, pour ne pas perdre tant de temps. Ça, on reconnaît qu'on perd beaucoup de temps dans la première éducation. Nous avons tous perdu beaucoup de temps. Alors ils ont voulu, de façon systématique, prendre l'enfant aux parents et éduquer l'enfant par des infirmières. Ça, on me l'a dit. Parce que j'ai visité un kibbutz, ça m'intéressait beaucoup. Puisque on retirait l'enfant, on le laissait 2 heures avec ses parents par jour. Et puis, 10 ans après, quand je reviens, j'avais le temps, je pouvais de nouveau visiter un kibbutz. Je retournais, ça m'intéressait. Celui qui me guidait était un Espagnol Il me regardait d'un regard de connivence. Il a très bien tout exposé. Puis quand il nous a dit « Est-ce qu'il y a des questions à poser ?» Je veux bien vous les répondre. Alors je lui ai dit « Il y a 10 ans, je suis venu. On m'a dit « Voilà comment ça se passait. Je voudrais savoir les résultats. » Alors il m'a dit « Oh, c'est une bonne question, celle-là. » Bien, les résultats, c'est qu'au bout de 5 ans, on a vu que les enfants retardaient d'un an, à peu près, l'éveil de leur intelligence. Alors, on a complètement changé. Puisque, pour Israël, l'éveil de l'intelligence est capital. Ça, ils ont le sens de l'intelligence. Alors, on a vu qu'au bout de 5 ans, qu'il y avait un retard d'un an, on a changé complètement. On laisse l'enfant aux parents et on le retire à partir de 13 ans. Puisqu'à partir de 13 ans, commencent les jalousies de la petite fille à l'égard de la mère, du petit garçon à l'égard du père. Alors, pour éviter ça, on retire l'enfant. Alors, je lui dis, je reviendrai dans 10 ans. Puisque c'est naturel que les parents éduquent les enfants. S'ils les éduquent mal, c'est la faute des parents. Mais c'est les parents qui ont enseigné. Parce que les premières jalousies, on n'a qu'à lire la Genèse, les premières jalousies se corrigent en famille, c'est sûr. Et la jalousie, quand elle grandit, c'est la jalousie qui tue. Par jalousie, on est capable de faire n'importe quoi. Abel a été tué par Caïn. Jalousie religieuse, c'est la plus forte. Et à travers la Genèse, il est toujours montré ça, hein, toutes les espèces de jalousie. Parce que si on retire l'enfant à la famille, quand naît la passion de jalousie, c'est à ce moment-là qu'on doit corriger. Si on ne corrige pas à ce moment-là, la tension de jalousie augmente et elle est capable. Si Caïn avait été bien élevé, il n'aurait pas tué Abel. Il avait su reconnaître qu'il était jaloux et que ce n'était pas bien d'être jaloux. C'était quelque chose d'horrible, la jalousie. J'attends, quand je retournerai, je verrai ça. Parce que c'est intéressant, là. C'était un laboratoire humain. Et il fallait que considérer ça comme... C'est rare qu'on puisse vraiment regarder comme ça, de près, l'éducation et la formation de l'intelligence et de l'amour. Indépendamment de ça, nous pouvons voir que l'intelligence, pour se développer, ne peut se développer que dans l'amour. Donc c'est très important, c'est que l'amour est premier. Il faut un climat d'amour, et c'est vrai pour tout, pour entrer en théologie, il faut un climat d'amour. Vous n'entrez en théologie que s'il y a un très grand amour de Dieu. S'il y a un très grand amour de Dieu, vous y allez. S'il n'y a plus l'amour de Dieu, vous dites, oh, c'est trop dur, c'est pas fait pour moi. Je n'ai pas une intelligence pour ça. Puis vous écartez. C'est l'amour qui permet ce développement. Alors, de fait, Dieu laisse une responsabilité très grande. Son concours est caché par la mère et le père. La mère éduque le concupiscible, puisque les jalousies les plus fortes sont du côté du concupiscible. Et le père éduque l'irascible. Quelquefois, c'est le père qui fait les deux et la mère, enfin. Mais il y a les deux. C'est pas pour rien que le foyer, c'est père et mère. Or, la femme est beaucoup plus éveillée que l'homme pour découvrir la passion du concupiscible. Elle voit beaucoup plus vite que le concupiscible augmente. La femme, la mère, a l'œil sur le concupiscible, sur le pot de confiture qui disparaît. Voyez. Elle a l'œil pour ça. Le père est beaucoup plus du côté de l'irascible. Parce que c'est l'autorité. Alors, puisque c'est l'autorité, on est beaucoup plus éveillé à un irascible vis-à-vis de celui qui a l'autorité. Et ça dure tout le temps, mais il y a des personnes qui, toute leur vie, ne peuvent pas supporter l'autorité. Même si l'autorité est très bonne. Pourquoi ? Parce que le père n'a pas joué son rôle de père. Ça, c'est très net. Vous savez, il y a quelquefois, on voit ça, des pères qui sont si gentils, je ne corrige pas. Donc, il laisse tout. Et c'est très mauvais, parce que l'enfant ne pourra pas arriver à avoir une certaine souplesse vis-à-vis de l'autorité. L'autorité est toujours un arrêt. Quand on a autorité, on commande. Et du fait même qu'on commande, on a autorité. Et si, à place d'obéir, on éveille les racines, c'est pas fameux. Mais bon, alors, on voit que l'éveil du concupiscible, l'éveil de l'intelligence, l'éveil de l'irascible, puisque je crois que c'est l'ordre qu'il faut donner, le concupiscible, ça forme un milieu. L'irascible ne forme pas un milieu, mais le concupiscible forme un milieu de vie. Un milieu de vie où l'on est à l'aise, où on n'est pas toujours, on n'a pas toujours des gens qui arrêtent, qui empêchent d'aimer. Non, il faut un certain climat d'affection, d'amour. Et l'intelligence a besoin de cet amour pour s'éveiller. Parce que l'intelligence est très fragile, l'intelligence humaine. Elle a une extrêmement grande fragilité. Il ne faut pas oublier, nous sommes les derniers êtres intelligibles. Le philosophe ne peut pas dire ça, Mais le théologien peut le dire. Il y a les anges et puis les hommes. Puis il n'y en a plus après. Et notre intelligence, elle est enveloppée du sensible par le corps. Et donc notre intelligence s'éveille en deuxième lieu, alors que notre intelligence a un droit d'aînesse. Et vous voyez que lorsque on vend son droit d'aînesse, on ne l'accepte plus après. C'est bien dit dans l'Écriture. Hein. Et c'est tellement vrai, ça. Les droits de l'intelligence, c'est l'aîné par rapport à l'amour. Mais l'intelligence s'éveille après l'amour. Il faut un climat d'amour pour que l'intelligence puisse s'éveiller. Parce que l'intelligence est timide. S'il n'y a pas l'amour pour le réconforter, l'intelligence trouvera très vite une autorité qui la mettra à se taire. Un petit gosse qui voit que chaque fois qu'il interroge, on ne lui répond pas, ou on se moque de lui, il n'interroge plus. Pour interroger, il faut un climat d'affection. Il faut ne pas avoir peur de dire à tous qu'on ne connaît pas et on voudrait connaître. Et c'est pour ça qu'on n'interroge que dans un climat où le point de vue affectif est suffisamment grand, suffisamment fort. Dès qu'il y a l'opposition, on se tait. Tandis que l'amour, quand l'amour a une résistance, l'amour peut se transformer en haine. L'intelligence ne peut pas se transformer en haine. L'intelligence, elle se transforme par le silence et par le fait même de ne plus interroger. Donc elle ne s'éveille plus. À ce point de vue-là, l'amour, la passion amour a une porte de sortie que n'a pas l'intelligence. Sa porte de sortie, c'est la haine. Et dans l'éducation, on doit savoir ça. Que si vous n'êtes pas ouvert en partie, pas totalement, mais en partie vis-à-vis du concupiscible, vis-à-vis de la concupiscence, vis-à-vis de l'amour sensible, vous risquez à ce moment-là que l'amour ne se développe pas et se renverse en haine. On n'a qu'à réfléchir sur les premiers amours qu'on a eus et les premières haines qui se sont élevées. L'irascible, il se met en colère. Le concupiscible ne se met pas en colère. Mais l'irascible se met en colère. Quand il y a une résistance trop grande, il se met en colère. Vous voyez, il y a cette chose très importante à voir, qu'il faut un climat d'amour pour que l'intelligence puisse se développer. Et il faut comprendre que dans le développement d'intelligence, le premier développement de l'intelligence et le premier développement de nos passions, les parents forment le tout, le milieu, et sont extrêmement importants pour éveiller un climat possible, pour éveiller un climat qui permet le développement de l'amour, le développement de l'intelligence. Au plan philosophique, on doit affirmer que Dieu laisse l'homme libre. Et donc que Dieu n'intervient pas d'une façon spéciale sur le développement de l'intelligence et de l'amour. Bon. Au plan surnaturel, on verra que Dieu, le Christ, amour, est toujours là et qu'il soutient notre cœur, il soutient notre vision intellectuelle. Donc, cette intervention de Dieu permet vraiment un développement de l'intelligence et du cœur dès le point de départ. Ça, c'est théologiquement. C'est très curieux qu'au point de vue naturel, je ne peux pas découvrir une intervention de Dieu. Je sais que intellectuellement, Dieu agit toujours sur mon intelligence et sur mon amour. Alors, lorsque j'arrive à ce qu'on appelle la vocation, à ce qu'on appelle le choix de vie, est-ce que naturellement, au plan philosophique, y a-t-il une intervention de Dieu? Je crois que tant qu'il n'y a pas cela, le choix de vie, y a-t-il une intervention de Dieu? C'est très difficile à répondre, hein. Je ne sais même pas si on peut répondre. Dieu nous a créés toujours avec la grâce. Le philosophe ne veut pas le savoir, puisqu'il ne veut pas savoir ce que c'est que la grâce. Mais Dieu nous a toujours créés avec la grâce. Ce qui montre que l'intervention naturelle de Dieu dans la conduite humaine naturellement n'est pas complète. Dieu aurait pu très bien ne pas donner la grâce, c'est sûr. Mais pour que l'homme atteigne sa perfection, tant du point de vue intelligence que du point de vue amour, il ne pouvait pas l'atteindre sans une intervention spéciale de Dieu. Ce qui prouve que, naturellement, Dieu n'intervient pas. C'est très, très curieux. Mais je ne veux pas dire que Dieu intervient sûrement pour le choix de vie. Au point de vue surnaturel, oui. On dira que Dieu intervient, que l'Esprit Saint intervient nécessairement pour le choix de vie, mais au point de vue humain, je ne peux pas le dire. C'est que l'être humain a été dans une très grande fragilité si Dieu n'avait pas inventer son secours direct par la grâce. Et je crois que c'est utile de noter ça. Je ne vois pas une intervention divine pour quelque chose que l'homme deviendrait capable sans parler de la grâce de réaliser par lui-même. Donc il faut dire qu'étant donné la nature humaine, l'intervention de Dieu pour un choix naturel qui serait l'achèvement de l'homme ne peut pas être affirmé. Et ceci, c'est important parce que ça fait comprendre que beaucoup d'hommes qui n'ont pas reçu l'annonce du royaume, beaucoup d'hommes qui n'ont pas reçu l'annonce de la parole de Dieu sont dans un désarroi si grand. Parce que notre nature humaine, alors d'autant plus que le philosophe ne pouvant pas parler du péché originel, d'autant plus que la nature humaine apparaît pour le philosophe une nature sans défense réelle vis-à-vis de tout ce qui peut l'attirer, de tout ce qui peut le séduire. Son intelligence humaine n'est pas, très souvent, n'est pas assez pénétrante pour que la vérité le séduise et lui montre vraiment ce qu'il doit faire. L'intelligence humaine a juste le pouvoir de me rendre responsable de ma vie, responsable de la conduite de ma vie, par la prudence. La prudence peut exister naturellement, et la prudence est capable d'orienter ma petite barque vers ce qui est bon. Mais voyez, elle est capable d'orienter ma petite barque dans ce qui est bon, mais elle n'est pas capable par elle-même de durer l'épreuve. L'épreuve de la durée. Il me semble. Je ne crois pas qu'on puisse dire, étant donné ce qu'est l'homme, qu'il est capable par lui-même de s'orienter durant toute sa vie. Et cela, ça fait partie, justement, de la très grande miséricorde de Dieu. C'est qu'il y a là une faiblesse congénitale dans l'homme qui provient du péché, péché de nature, et qui provient aussi de l'assemblage du corps et de l'esprit. Je crois que c'est important, au point de vue philosophique, de voir cette faiblesse, de constater cette faiblesse, parce que ça fait comprendre cette miséricorde très grande du Christ par rapport à l'homme. Le point de vue philosophique constate cette faiblesse congénitale, elle est congénitale, cette faiblesse congénitale de l'homme qui a beaucoup de peine de maintenir une vie, de donner une vie pour mon intelligence, une vie qui serait ordonnée à la connaissance philosophique de l'homme. Il y a comme un poids trop grand des passions qui empêche l'homme de se dépasser et d'opter dans un choix de vie où il pourrait y avoir un dépassement. Quand on voit ce dépassement de l'homme, on peut dire qu'il y a eu la grâce de Dieu, même s'il n'est pas chrétien. Qui a la grâce de Dieu. Vu ce qu'est l'homme, sa fragilité, je crois que c'est la seule chose qu'on peut constater, et qui est très importante, parce que ça nous empêche de juger trop vite. On ne voit pas suffisamment tout ce que nous avons reçu gratuitement. La grâce chrétienne. On n'aurait pas eu la grâce chrétienne. Qu'est-ce qu'on serait devenu? Parce que, laissé à lui-même, l'homme a une extraordinaire pauvreté, une très grande faiblesse. Je crois qu'il faut constater cela. Alors, on pourrait se demander pourquoi Dieu veut-il que cette espèce humaine continue, malgré les résultats assez lamentables. Alors, on oublie que la volonté de Dieu, c'était avant le péché. Le péché d'Ève touche toute l'espèce humaine. et met l'espèce humaine dans un état de pécheur. Et par le fait même, cet état de pécheur réclame d'une façon très forte la miséricorde de Dieu. Humainement parlant, l'homme est là pour voir que si Dieu se contentait du point de vue de la nature, que la personne serait comme enveloppée par la nature, disparaîtrait dans la nature. L'homme ne pourrait pas atteindre sa fin. Et je crois que ça, on peut le dire. Et ça donne une très grande miséricorde à l'égard des hommes. Si cela vous semble trop violent, écrivez-le. Écrivez votre objection, parce que je crois que c'est très important pour nous comme attitude apostolique de reconnaître cela, de le comprendre. Mais pour le comprendre, il faut qu'on le voit. Il s'agit d'être lucide, de comprendre.